France Inter.
Salut Frédéric et toute l'équipe de Blockbuster, c'est Romain de Nantes. Enfin une émission sur les Transformers. Alors j'ai sorti le polish pour l'occasion, histoire de faire briller les chromes, parce que Transformers, c'est bien plus que des jouets remplis de nostalgie ou des films d'action qui finissent dans le décor. Transformers, c'est une révolution des imaginaires. Terminer les space opéras dans des galaxies lointaines, ces robots-là, ils sont sous notre nez. La Fiat Punto Mamie ou votre Grippin sont susceptibles de cacher un robot qui se déguise. Et personnellement, je ne m'en suis jamais remis. Merci encore et à très vite.
Salut tout le monde de Blockbuster, j'ai adoré votre émission sur Mission Impossible. Bon, vous n'avez pas assez parlé de Simon Pegg qui est quand même un acteur incroyable. Moi, je l'ai découvert dans Mission Impossible. J'ai découvert ses autres films et je me suis dit, à quand un blockbuster sur la trilogie des Gorditos? Merci beaucoup, au revoir.
Salut Fred, c'est Loïc encore. Et ben aujourd'hui, j'appelle pour parler de Daredevil, Matt Murdock, un personnage avec lequel j'ai eu très peu d'affinité au début. Un avocat adulte avec des galeries de personnages plutôt kitsch. Et puis, un jour est apparu le fameux Daredevil, l'aile du diable, Jimmy Pagliotti, Joe Quesada, qui ont totalement lancé mon intérêt pour le personnage, qui n'a eu de cesse de se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Daredevil, je le suis toujours, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup et qui est vraiment intéressant. Et je vous recommande à tous l'excellent run de Mark Waid et Chris Samnee sur le personnage, qui est probablement, après la saga du clone chez Spider-Man, mon second run préféré de tout ce que j'ai pu lire en comics depuis que j'ai commencé à lire des comics. Eh ben, merci Matt, et à très vite, on se retrouve sur le petit écran.
To be or not to be, not to be.
C'est bientôt les Jeux Paralympiques et je dois avouer qu'il n'y a rien qui m'impressionne plus sur cette terre que voir les performances sportives de personnes en situation de handicap. Courir un 100 mètres sur des prothèses, jouer au basket en fauteuil roulant, faire de la natation sans bras ni jambes, j'arrive pas à concevoir le degré de volonté et d'implication qu'il faut pour arriver à un tel résultat. J'ai vu des gens amputés d'un bras soulever des barres d'haltérophilie de plus de 100 kilos. Quand on sait qu'une grande majorité de la population en pleine possession de ces moyens peine à effectuer 10 000 pas par jour. Mais le revers pervers en fait de cette fascination, c'est que pour que le handicap devienne visible dans nos grandes villes, il faut en quelque sorte qu'il devienne spectaculaire. Le handicap, pour avoir droit de cité, doit être porté par de beaux et jeunes sportifs. Et ça, ça devrait pas être le cas en fait. La représentation du handicap, ça devrait pas s'arrêter aux exceptions. Car tous les handicaps ne sont pas des membres absents qu'on peut compenser par une prothèse. Il y a des handicaps avec lesquels on ne transige pas. Des handicaps mentaux, des incapacités physiques qui transforment le simple fait de sortir de chez soi en discipline olympique. Sans compter la multitude d'handicaps que le monde ne repère pas au premier coup d'œil, mais qui n'en sont pas moins incapacitants. Le handicap, c'est aussi un manque de moyens financiers, la difficulté d'avoir un ou une auxiliaire de vie, une allocation d'adulte handicapé digne de ce nom. Les familles qui chaque année doivent remplir des dossiers MDPH, ABSCON, prouvant qu'un enfant est toujours en situation de handicap, parce qu'on ne sait jamais un miracle est si vite arrivé. Toutes ces disciplines, pas moins impressionnantes qu'un 100 mètres, mais qui ont lieu non pas une fois tous les 4 ans, mais tous les jours. Aux Jeux Paralympiques de la vraie vie, non seulement il n'y a pas assez de médailles, mais des fois, on n'a même pas donné l'accès au podium.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglist.
J'ai grandi à Hell's Kitchen.
Politicians and the real estate developers call it Clinton.
Les promoteurs l'appellent Clinton maintenant.
But a neighborhood, like
mais un quartier, comme toute chose,
has a soul.
Ça a une âme.
And souls
on peut changer le nom, l'âme, elle ne change pas.
Diminue, tape-moi. Je te laisse un coup d'avance. Tu pousses un peu, il s'envole. Toi comme ton vieux. Vas-y, cogne-moi.
My dad's gonna be champ.
Mon père, il va être champion.
Your dad's a bomb.
C'est un tocard, ton père.
Allez, Murdock,
hit me.
Cogne-moi.
C'est vraiment un
naze.
T'as raison, c'est qu'un
naze.
Il me fait pitié.
Mon père était boxeur. Un journaliste sportif avait écrit un jour qu'il se battait comme un démon. Le nom lui était resté.
Jack, the devil Murdock.
Jack, le démon Murdock, avait été un challenger redouté.
Mais
c'était il y a longtemps.
Si l'écurie des super-héros Marvel compte des stars connues du grand public, telles que Spider-Man, Hulk ou les Avengers, il ne faut pas oublier un personnage tout aussi exceptionnel, plus urbain, en situation de handicap, un avocat catholique aveugle qui fait régner la justice en s'habillant en Diable Rouge, Daredevil ou Daredevil à la française. Un super-héros particulièrement bien servi dans sa version bande dessinée, une création initiale de Stan Lee et Bill Everett en 1964, qui s'est vue ensuite transfigurée par le travail de nombreux artistes tels que John Romita Sr., Frank Miller ou Brian Michael Bendis. Pour revenir sur les grands moments de la carrière papier de Daredevil, je suis entouré par Bruce Tringal, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Vous avez créé il y a 11 ans le blog Bruce Plus Loin Lee, sur lequel, accompagné de votre équipe, vous chroniquez bande dessinée, manga, films, séries et musique.
Tout à fait. La spécificité d'écrire un article par jour depuis maintenant presque 12 ans, avec point d'orgue d'écrire sur de la culture geek à la culture tout court.
C'est bien.
Et nous sommes un site, je pense, où il y a le plus d'articles sur Daredevil.
Avec nous également, de retour, Alexandra Ramos, bonjour.
Salut.
Vous êtes community manager freelance, spécialisée dans les comics, et vous êtes productrice du podcast Comme dans ta bulle.
C'est ça.
De retour également, Arnaud Tomassini, bonjour.
Salut Frédéric.
Vous êtes le rédacteur en chef du site comicsblog.fr et coproducteur du podcast First Print.
Tout à fait, je te remercie de mettre une fois de plus en avant les comics sur le service public sur France Inter. C'est que j'ai notamment des potes à Strasbourg, dont Emilio qui est gros fan de Batman et de Daredevil, qui va adorer cette émission, donc merci à toi.
Spéciale dédicace.
C'est ça.
L'autre partie du binôme First Print, Olivier Corentin, bonjour.
Bonjour.
Rédacteur pour comicsblog.fr et comme je l'ai dit, coproducteur du podcast First Print.
Oui.
You wanna tell me what
tu peux m'expliquer ce qui se passe. D'abord, t'acceptes de prendre l'affaire, sans qu'on se concerte. Et ensuite, tu l'examines sous toutes les coutures, en faisant le sketch du super méchant flic.
Si on veut faire tourner la boutique, on doit prendre quelques affaires qui paient. T'avais raison sur ce point.
Ok, mais je te signale que c'est la première fois que tu reconnais que j'avais raison. Et je déteste ça.
Mais c'est vrai. Parfois, on doit faire des choses dont on n'est pas fier.
Absolument. Mais il faut pas non plus que ça devienne une spécialité.
Ouais, je sais.
On est dans la même équipe et on prend les décisions ensemble.
I got carried away. Okay. I'm sorry, Fox. Je me suis emballé. Je te prie de m'excuser.
It's okay. C'est rien. En supposant qu'il soit inculpé, ce qui est probable, ce sera au procureur de prouver au-delà du doute raisonnable que ce n'était pas de la légitime défense. Et la fille qui s'occupe des chaussures n'a pas assisté à l'altercation jusqu'à ce que ça dégénère, ce qui est un bon point.
Et pour les hommes de Prohaska,
ils avaient des avocats. Ils sont restés 5 minutes.
Depuis quand les victimes d'une agression refusent de témoigner?
De toute façon, ça nous arrange, et ajoute à ça qu'Ily est bien amoché. On mise sur ses blessures défensives pour étayer la théorie de la bagarre plutôt que celle d'une exécution.
Donc, tu commences et je termine. On encaisse le chèque et on demande à Karen de voir ce qu'elle peut trouver sur Global Investments.
Ça marche.
Un extrait du 3e épisode de la saison 1 de la série Daredevil, réalisé en 2015 par Drew Goddard, disponible sur la plateforme Disney+. Charlie Cox interprète Daredevil, il est doublé en français par Bernard Gabé. Eldon Henson joue le rôle de Franklin Foggy Nelson et il est doublé en français par Franck Lorrain. Corentin.
Oui.
Alors, je sais que sur First Print, le côté Wikipédia du comic book, il est incarné par vous. Donc, pourquoi changer une formule qui fonctionne bien ? Comment est né Daredevil ? Daredevil.
Alors, le personnage de Daredevil, il apparaît au départ... moi, je dis Daredevil.
Oui, voilà. Bah voilà, on va faire ça.
Voilà. Il apparaît au départ dans le boom des super-héros qui s'est lancé après l'apparition des 4 Fantastiques chez Marvel. Et aussi l'introduction de plein de personnages connus comme l'incroyable Hulk, Thor, Spider-Man. Il y a un boom, en fait, une demande du public pour plus de super-héros. Et Stan Lee, qui à l'époque est dans sa profusion d'idées, de nouveaux concepts, propose du travail d'abord à Steve Ditko, puis à Bill Everett, qui était le créateur de Namor, un vieux personnage.
Steve Ditko étant le créateur de Spider-Man.
Absolument. Qui était un vieux personnage de l'âge d'or, en fait, un homme-poisson, voilà, très connu pour avoir combattu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, il travaillait pas, en fait, et il voulait lui créer un personnage qui pourrait bien lui correspondre, avec l'assistance de Jack Kirby, qui est un peu le père fondateur du catalogue de chez Marvel, qui va designer le costume, une première version qui est plus jaune, plus acrobate. D'ailleurs, le nom d'Ardeville signifie casse-cou en anglais, et pas spécialement de rapport direct avec la chrétienté, qui sera un thème qui arrivera beaucoup plus tard. Et le personnage, du coup, se lance avec cette petite promesse d'être un héros aveugle, donc c'est son principal caractère distinctif, puisque Stan Lee conçoit un peu ses histoires avec toujours une sorte de petite faille chez ses personnages. Le Hulk, son côté colérique, Spider-Man, c'est sa précarité, et le fait que c'est un écolier qui n'arrive pas à trouver de stabilité.
Oui, Donald Blake, l'alter ego de Thor, qui était boiteux.
Absolument, et donc pour Daredevil, ce sera effectivement le premier héros atteint de cécité. À noter qu'il y avait un autre personnage qui s'appelait Daredevil encore auparavant, qui n'a absolument rien à voir, qui était plutôt une sorte de ninja avec des boomerangs. Le héros, il va évoluer à partir de là avec des aventures plutôt entre soit légèreté et soit grand fait dramatique selon les scénaristes. C'est vraiment quand un autre artiste va commencer à prendre les commandes du projet qui s'appelle Frank Miller, du coup, le monsieur en question, qu'on va assister à la naissance du Daredevil qu'on connaît aujourd'hui, celui de la série Netflix, celui des volumes modernes, un travail beaucoup plus noir, beaucoup plus polar, beaucoup plus japonais aussi, quelque part. Et toute la période qui vient auparavant, on va dire que c'est plutôt une époque où le héros est quand même relativement impopulaire, très méconnu par rapport au reste des héros Marvel.
Alexandra, votre rencontre avec Daredevil, qu'est-ce qui vous a séduit chez ce personnage ?
Moi, j'ai une petite obsession, et je pense que tu le sais, pour Batman, et on sait que...
Non, à peine !
À peine ! Bon, bah, désolé. Bon, bah voilà, je le dis, c'est une nouvelle. Et on le sait que dans l'industrie du comics, chez DC et chez Marvel, il y a une sorte de ping-pong qui se renvoie sur des personnages assez similaires. Tu parlais de Namor, et de l'autre côté, chez DC Comics, on a Aquaman. Et donc, Daredevil est le pendant un peu batmanien, on va dire, avec ce côté très sombre. Il est obsédé par la vengeance, de par la mort de son père qu'il perd assez jeune, tout comme Bruce Wayne. Et il va partir en quête de justice.
Un père qui meurt parce qu'il a refusé de se coucher dans un match
dans un
truqué.
Combat de boxe.
Dans un combat de boxe,
voilà,
truqué.
Exactement. Où il devait, du coup, exactement se coucher, mais par justice et par courage, il a préféré, du coup, perdre. Et de là, ne plus avoir son père, ça a été très difficile pour lui. Et c'est pour ça qu'il est en perpétuel dualité sur le bien et le mal, où la journée il va être avocat, défendre des droits moraux pour au final la nuit combattre le crime et être à l'encontre de ce qu'il défend au jour. Donc c'est ce qui m'a touché, cette humanité, cette profondeur, cette quelque chose d'assez sombre où tout de suite j'y ai vu beaucoup de Batman, bien sûr.
Bruce, c'est vrai que ce contraste dont parle Alexandra, il est prédominant chez Daredevil, c'est-à-dire que son père, boxeur, s'est saigné aux quatre veines pour lui offrir des études, pour qu'il fasse du droit, pour qu'il soit éloigné justement de l'utilisation de ses poings, comme lui en tant que boxeur. Il lui avait même fait promettre de jamais utiliser ses poings. C'est un peu plus tard, avec Frank Miller, on découvrira qu'il est profondément catholique, mais il se déguise en démon rouge. C'est aussi un petit peu ce qui résume Daredevil, ce contraste permanent.
C'est un contraste permanent, c'est un personnage qui est déchiré et qui est déchirant. Moi, je me rappelle lorsque j'ai découvert Daredevil dans le Strange 157 avec l'arrivée de Frank Miller, il se bat contre le chasseur et déjà, c'est un super vilain qui a découvert sa double identité. Et pendant tout le run de Miller, de Nocenti, de Demetéis, de Chichester, Daredevil doit lutter entre ce qu'il est, ce qu'il voudrait être et ce qu'il n'est pas. Un personnage qui nous amène à nous poser des questions sur la construction de notre identité et comment on peut la perdre d'une manière autre que super-héroïque, c'est-à-dire sociale, avec le fameux Born Again, où cet avocat se réveille dans des draps de soie et trois épisodes après dort dans la rue, comme dans les pires romans de Paul Auster. Donc, moi, c'est un personnage qui m'a fait rentrer dans l'âge adulte parce que à l'époque, dans Strange, on avait Rome, The Space Knight.
Ça a même fait rentrer une grosse partie des comic book Marvel dans l'âge adulte. Moi, je sais que ça a été une claque aussi. Et même certains de ces épisodes ont été censurés dans la version française de Strange parce que c'était considéré comme trop adulte pour l'électorat de l'époque.
Ils ont été doublement censurés, c'est-à-dire ils ont été censurés par le Comics Code Authority, et ici, Born Again n'a jamais vu sa fin en VF, c'est-à-dire que Born Again commence dans Strange de 209 et finit en 211, dans le courrier des lecteurs, disant « la série est trop violente, et puis de toute façon, Daredevil retombe dans sa médiocrité après. »
Alors j'explique pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cet arc. Dans cette histoire, Karen Page, qui est l'ex-petite amie de Matt Murdock, Daredevil, et qui est tombée dans l'héroïne et la pornographie, vend le nom de... parce qu'elle connaît la double identité de Daredevil, vend le nom à un criminel, et ça remonte jusqu'au grand caïd de la pègre, qui est l'ennemi de Daredevil et de Spider-Man, mais ça, on y viendra aussi, et qui décide de briser sa vie, de faire exploser son cabinet, de le faire radier du barreau avant, ce qui fait que le personnage subit une déchéance qu'on n'avait jamais vue jusqu'à maintenant. Ils sont brossés dans l'alcool, ils terminent dans la rue, enfin vraiment c'est quelque chose qu'on avait, un côté rugueux qu'on n'avait jamais vu dans le comic book jusqu'à maintenant. Alors peut-être que ça existait, mais moi je ne l'avais pas lu jusqu'à maintenant.
Ça n'existait pas. La déchéance d'Iron Man arrive quelques numéros plus tard, avec Tony Stark également dans la rue. Mais ce qui...
qui picole aussi.
Voilà.
Méfiez-vous de l'alcool quand même.
Mais ce qui dénote dans Daredevil, c'est un espèce de monologue intérieur, une plongée dans la folie, dans la psychose, d'un personnage qui était déjà déséquilibré. Le caïd disait, en fait, j'ai découvert que Murdoch était déjà fou, il avait juste à appuyer sur un bouton. Voilà, tout à l'heure, tu parlais, Frédéric, de Jeux paralympiques. Si tu te rappelles bien, dans le début du run de Miller, il y a une scène où il s'entraîne dans son gymnase devant sa fiancée de l'époque qui s'appelle Evergreen, et Miller s'amuse en disant « Cette performance ferait rêver telle discipline olympique. » Donc j'ai trouvé que cette introduction était assez bienvenue.
Faut pas le dire, mais... Je pense un peu mon émission de temps en temps.
Voilà.
Il ne faut pas le dire.
Arnaud, votre rencontre avec Daredevil, Daredevil.
En tant que média, tu veux dire dans,
en tant que lecteur.
En tant que lecteur. Mais je crois que j'étais très lecteur de DC comme Alexandra à un moment, puis j'ai switché vers Marvel aussi. Donc je pense que mon premier contact, c'était avec la série Netflix en 2014, donc il y a 10 ans maintenant. Et directement, en fait, on va vers... quand tu veux aller lire Daredevil, il y a plusieurs points d'entrée qui sont très faciles. Et je pense que le run de Frank Miller, c'est celui que tout le monde recommande de façon générale. Et notamment, à la fois Born Again, mais aussi une mini-série qu'il a faite. Oui. En fait, plusieurs années après son premier passage sur Daredevil, qui s'appelle L'Homme sans peur, The Man Without Fear, qui est en fait un récit illustré par David Mazzucchelli et qui retrace les origines, qui est de la réinvention à l'époque moderne des origines de Daredevil par rapport à son maître d'armes qui lui a appris le kung-fu. Corentin parlait de ninja un petit peu avant, en fait, comment tout s'est assemblé, comment il a rencontré aussi Elektra, vraiment. Et je pense que c'est vraiment le récit, le béaba de Daredevil, pour bien savoir simplement qui est ce personnage, comment il fonctionne, et servi en plus par une équipe créative qui a prouvé maintes fois toutes ses qualités.
Corentin ?
Juste parce que sinon on va nous tuer dans les commentaires, c'est John Romita Jr. qui dessine.
Ah pardon, oui.
Mazzucchelli fait...
Avec le costume noir.
Ouais, tout à fait.
Son jogging noir.
Tout à fait.
Alors, Daredevil, c'est aussi un film... Un film avec Ben Affleck et réalisé, commis par Mark Steven Johnson, et notamment une bande-son qui fleure bon le début.
Le néo-métal.
Voilà.
Le néo-métal.
Evanescence avec Bring Me to Life.
Yeah.
sur Blockbuster avec Frédéric Stiglitz sur France Inter et c'est super.
You get what you deserve.
On a ce qu'on mérite.
It's an old saying.
C'est une vieille formule.
One that survived the years because it's true.
Qui a traversé les âges parce qu'elle est vraie.
For the most part.
En grande partie.
But not for everyone.
Mais pas pour tout le monde.
Some get more than they deserve.
Certains ont plus que ce qu'ils méritent.
Because they believe.
Parce qu'ils se croient.
They aren't like everyone.
Différents des autres.
That the rules.
Ils pensent que les règles.
The ones people like.
Celles avec lesquelles vivent les gens comme vous et moi. Les gens qui luttent et se débattent au quotidien.
Just live.
Ces règles ne s'appliquent pas pour eux.
The people of this city.
Les habitants de cette ville.
We still matter.
Nous comptons encore.
There's someone in Hell's Kitchen.
Il y a quelqu'un à Hell's Kitchen qui ne partage pas cette opinion.
He's been among us for quite some time.
Il vit parmi nous depuis longtemps.
Never heard his name.
Vous ne connaissez ni son nom ni son visage.
He stayed in the shadows.
Il reste dans l'ombre.
Because men like him,
parce que les hommes comme lui, les hommes qui veulent contrôler notre ville et nos vies,
fear the light,
craignent la lumière et ce qu'elle révèle.
This man must no longer.
Cet homme ne doit plus être autorisé à opérer à l'abri des regards.
If he has nothing to hide,
s'il n'a rien à cacher,
let him step forward.
Qu'il sorte de l'ombre.
Un extrait de l'épisode 8 de la saison 1 de la série Daredevil avec Ben Urich qui est interprété par Vandy Curtis Hall et doublé en français par Thierry Desrose. Ben Urich qui est aussi un des personnages qui gravite désormais assez régulièrement dans le monde Marvel parce qu'il travaille au Daily Bugle, le journal dans lequel officie également Peter Parker. D'ailleurs, Spider-Man vit une existence parallèle à celle de Daredevil et ils se croisent assez régulièrement.
Ils ont un vilain en commun.
Le Kaïd, justement, et dont, dont Ben Urich vient de parler. Initialement, c'était un ennemi de Spider-Man.
Oui, absolument. Bah, au départ, effectivement, mais il n'avait pas forcément une existence en tant que personnage civil. C'était vraiment le Kaïd, donc le boss du crime. Et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, déjà avec Roger McKenzie, qui est le scénariste qui prend les commandes de Daredevil avant que Frank Miller vraiment ne s'impose, impose son style et ses codes, on arrive déjà vers une transition où peu à peu, comme je le disais tout à l'heure, Daredevil devient vraiment un héros du polar américain, c'est-à-dire du film noir américain. Et donc il faut un grand criminel, il faut un Al Capone. Et dans cette version-là, on va dire que Hell's Kitchen sera un peu le Cicero de Al Capone, le quartier de Hell's Kitchen, qui est le quartier de Daredevil, quartier gangréné par la corruption, par le chômage, la drogue dans les années 70, et par les migrants irlandais qui s'y installent aussi. D'ailleurs, Frank Miller lui-même est originaire, enfin sa famille est originaire d'Irlande. Arrive commence à se mêler cette thématique du journaliste qui balbutie à la recherche de l'affaire, des assassins qui sont complètement fous, ce milieu vraiment où voilà la drogue, les yakuza commencent un peu à s'infiltrer, et peu à peu d'un héros qui était vraiment plutôt joyeux, au demeurant, plutôt cordial, acrobatique, un copain de Spider-Man, effectivement, ils ont toujours été assez proches, devient peu à peu vraiment cette figure du détective privé, en juste au corps, évidemment, de l'homme dans la fatalité, et comme effectivement Bruce le disait, d'un héros qui va constamment, en fait, être écrasé par le poids de cet adversaire, qui, en fait, est comme une sorte de reflet de lui-même. Et c'est peut-être aussi l'une des relations les plus intéressantes dans les comics, le Kaïd et Daredevil, puisque, certes, ils sont opposés, mais plus ils évoluent ensemble, plus on voit que ce sont des égaux, en fait. C'est les deux seuls contraires de la même idée. Ils veulent tous les deux avoir une sorte de poids sur une ville, le contrôle, l'ordre, l'autorité, etc. Mais qui s'appliquent très différemment. Et il y a même des arcs où ils collaborent. Parce qu'ils s'échappent de prison, notamment dans une très belle histoire, le diable dans le bloc D. On les voit ensemble s'évader de prison, tabasser des gardiens. Et on est vraiment sur une ligne morale, en fait, qui n'existe absolument pas dans le reste des comics Marvel, où généralement, le héros, c'est le héros, le vilain, c'est le vilain. C'est vraiment justement un truc qui marche très bien et qui est très bien derrière Murphy dans le fait dans la série Netflix / Disney+, avec Vincent D'Onofrio et Charlie Cox qui se répondent magistralement.
Et pour revenir aux apports essentiels de Frank Miller à la mythologie de Daredevil, il y a tout ce folklore nimbé d'Asie, les ninjas, Elektra, qui elle aussi est complètement nourrie par la vengeance. Il y a Stick, le maître d'Elektra et de Matt Murdock qui va leur apprendre à compenser la cécité de Matt et à se battre. Frank Miller il a aussi écrit le comics Ronin, et il a aussi fait dans certains scénarios qu'il a écrit pour Robocop, je crois que c'est Robocop 3, où il revenait encore sur
et la série Wolverine avec
Chris Claremont
qui va au Japon justement.
Comment on explique c'est cette proximité entre l'Asie et Frank Miller, Bruce?
Je sais qu'il a également dessiné des couvertures américaines pour la série
Lone Wolf Fight Club.
Je pense que ce qui l'intéresse à l'époque, on découvre avec Wolverine, c'est toute cette histoire de mafia, de justice, d'honneur, de personnages orgueilleux, juste mais dur. Et en fait, il fait du polar avant le film qui m'échappe là, avec Michael Douglas.
Mince. Purple Rain, non. Ouais. Pas
avec
ça.
Michael Douglas.
Ouais. Ouais.
Qui se passe au Japon aussi.
Ah oui, oui. Effectivement, il y a un purple. Oui.
Non, cherche
Black Rain.
Voilà, Black Rain.
Black Rain. Et en fait, il n'y a pas du tout de purple, mais c'était Black Rain.
Black Rain. Mais en fait, Miller, il aime bien toucher à tout ça. C'est un espèce de mix. Dans The Man Without Fear, Wilson Fisk, c'est quasiment Vito Corleone, quoi. C'est le parrain avec sa rose en bandoulière. Donc voilà, je pense qu'il aime dessiner les arts martiaux et il fait de Daredevil un samouraï raté, quoi.
Si je peux juste préciser, parce que j'ai la chance de travailler là-dessus, en fait, il faut se dire aussi que dans les années 80, enfin 70-80, il n'y a pas de manga aux États-Unis, ça n'existe pas. En revanche, il y a des dessinateurs qui sont déjà férus de ce qui se passe en Europe ou en Asie, et on va offrir à Frank Miller justement le manga Lone Wolf and Cub, qu'il lit donc en japonais, donc il ne comprend pas les dialogues de ce qu'il découvre.
Peut-être que les auditeurs connaissent ça sous le nom de Baby Cart.
Et donc à l'époque,
non, mais c'est vrai que c'est le du film, ça s'appelait Baby Cart.
Il tombe vraiment amoureux en fait de l'esthétique développée par Koike et Kojima, et il a vraiment envie en fait d'instiller cette notion-là, parce qu'à l'époque il y a déjà des films d'arts martiaux qui sont distribués, ceux de la Harvest, de Chang Che, des Shaw Brothers, dans les cinémas de quartier de New York pour pas cher, parce que personne ne veut aller les voir. En fait, ça fait une production de série B qui est très riche et qui nourrit aussi les comics. Sauf qu'à l'époque, c'est des maîtres d'arts martiaux très caricaturaux. Très raciste même, avec les kimonos, etc. C'est le seul qui va aller chercher vraiment à l'origine même dans la bande dessinée, et qui va importer en amont en fait de la mode des ninjas, qui va après fleurir dans les années 80, devenir un archétype très très répandu, souvent pareil très raciste, très caricatural, et lui en fait quelque chose de beaucoup plus noble. Et ce faisant, il revient un peu aussi à l'essentiel du polar des années 20 et 30 aux États-Unis, dans les pulp, où il y avait déjà la peur du péril jaune, de Fu Manchu, des sectes culturelles avec des asiatiques qui enlevaient des jeunes filles, etc. Et en revenant avec ce Daredevil très polar et cet afflux ninja, il crée une sorte de mysticisme de l'underground, où il y a les Yakuza, la mafia italienne, le Kingpin. Et donc déjà, à l'époque, en fait, c'est très très bien fait, très très noble, et beaucoup mieux que ce qu'on voit ensuite dans les comics avec les ninjas.
Et on retrouve d'ailleurs des scènes de Daredevil qui se passent dans des cinémas pourris, avec justement Ben Urich qui est dans un cinéma vraiment de quatrième catégorie, et qui est menacé...
Le cinéma qu'affectionne Quentin Tarantino.
Voilà, et qui est menacé...
qui fait des doubles séances avec un film porno, un film d'horreur.
Et voilà, et qui est menacé par Elektra, qui menace de le tuer avec un sai dans le dos... Et une scène de terreur absolument incroyablement représentée, avec un gros plan de l'homme de tous les jours. Hein. C'est juste un journaliste qui est mêlé à ces histoires de super-héros. Et cette même terreur, on la retrouve pour Ben Urich une fois qu'il est menacé, cette fois-ci par une infirmière qui est à la solde du caïd et qui va vous éloigner définitivement du fantasme de l'infirmière sexy.
Alexandra ?
Pour revenir juste pour Elektra, parce que c'est un personnage qui me tient vraiment à cœur, et Frank Miller, avec son influence autour du Japon, a aussi continué un héritage sur les Bad Girls, parce que c'en est une, Elektra, qui est à l'instar
c'est
des...
The Bad Girls,
mais qui s'est lancée dans les années 90, avec notamment Lady Devs ou Empirella, donc c'était des femmes très sulfureuses, qui étaient... plus souvent des nudées, mais en tout cas qui se battaient, qui prenaient les armes, et qui étaient à l'instar des good girls des années 40-50, comme Lois Lane, qui avant de vraiment prendre poids aujourd'hui dans les comics, était juste la petite amie d'eux. Et donc il a vraiment apporté une force féminine aussi à Elektra, et en apportant une relation d'amour-haine qui est toujours instable, mais qui est très intéressante
à analyser. Et toujours d'actualité.
Et toujours actuellement.
Parce qu'il faut préciser que Elektra... est actuellement Daredevil également.
Exactement, dans le run de Chibzarsky qui se passe actuellement, ouais, c'est génial.
Arnaud, on a parlé évidemment de l'aspect asiatique de Daredevil, mais il y a aussi un aspect juridique. C'est ça aussi qui est assez particulier dans Daredevil, c'est qu'il y a quelques fois, ça devient carrément une série juridique où on voit plus Matt Murdock et Foggy Nelson en train de gérer des litiges judiciaires. Et il y a même certains avocats qui ont travaillé sur l'écriture de Daredevil.
Je crois que tu veux parler d'un monsieur qui s'appelle Charles Soule.
Oui.
Qui est effectivement avocat de métier et qui est scénariste de comics, que pas mal de gens ont pu lire sur Daredevil, mais aussi sur du Star Wars, et qui est effectivement, en fait, a tiré profit du fait de son métier pour, en fait, instiller vraiment tout ce qu'il connaît de sa pratique du métier dans les aventures. Mais c'est pas le premier à l'avoir fait parce que, en fait, la composante même de Matt Murdock en tant qu'avocat, parfois, c'est même juste un vrai fil narratif et pas juste un à côté. Où, c'est-à-dire que c'est pas comme forcément, on mentionnait Batman avant, où Bruce Wayne n'est qu'un accessoire à Batman, mais Matt Murdock est une vraie identité au même titre que Daredevil. Et donc, ça peut faire des intrigues sur, notamment avec son associé Foggy Nelson, sur la façon dont ils vont être soit employés dans un cabinet, soit monter leur propre cabinet après, par exemple, avoir été virés, ou en fait, ils vont avoir des affaires qui vont leur tomber dessus eux-mêmes, où ils vont devoir se protéger également. On mentionnait Burning Head, où en fait, Matt Murdock va être destitué du barreau. Donc, c'est vraiment tout un pan qui est partie intégrante du ce personnage. Et j'imagine que pour les gens qui sont, est-ce que Daredevil serait pas le personnage préféré des gens qui font des études de droit? C'est une question que l'on peut poser.
Il y a même des histoires où Daredevil est obligé de s'attaquer lui-même en justice.
Oui. Comme quoi, il est vraiment, vraiment torturé. Hein. On est ensemble pour parler de Daredevil, mais pour le moment, on va écouter Flora Hibbert avec Auto Icon.
Blockbuster sur France Inter.
You think he's crazy?
Tu crois que ce mec est dingue?
Le Punisher, non. Mais je pense que c'était inévitable.
Inévitable?
How so?
Comment ça?
Peut-être.
Maybe we created him.
Qu'on est tous responsables.
All of us.
On l'a créé. Dès lors qu'on a laissé Daredevil ou le démon de Hell's Kitchen agir, on a perdu.
Non, ça n'a rien à voir.
Moi, je crois que la limite est très floue, Matt. Daredevil vient jouer les justiciers et on l'applaudit sans se demander si c'est une bonne chose. Je le sais parce que je l'ai fait. Et j'arrête pas de me dire que d'une certaine manière, ce qu'il fait a ouvert la voie à des types comme le Punisher. Des hommes qui veulent du sang. Et qui pensent qu'ils ont la loi pour eux.
Il y a une grosse différence.
S'il y en a une, je la vois plus.
Daredevil never killed anyone.
Si, Daredevil n'a jamais tué personne.
Not that we know of. Ah oui, qu'est-ce qu'on en sait? There's something about this city that makes good people. Dans cette ville, c'est comme s'il y avait une malédiction qui transforme tous les gens bien en véritables ordures.
You think this?
Parce que tu crois que ce Punisher était quelqu'un de bien?
No, I'm just saying. Je dis seulement que he could be any one of us. Ça pourrait être l'un de nous.
Un extrait du deuxième épisode de la saison 2 de la série Daredevil avec Deborah Ann Woll. Oui, je mélange les deux, anglais, français, voilà. Qui joue le rôle de Karen Page et elle est doublée en français par Noémie Orphelin. Et justement, ce Punisher, alors, qui est un personnage, tout comme Spider-Man, qui, lorsqu'il apparaît dans le comic book Daredevil, va être la source d'un dilemme encore plus profond que ceux de Matt Murdock habituellement. Et c'est vrai que se pose toujours la question de la légitimité de se faire justice soi-même, d'autant plus quand on est avocat.
Bah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, en fait. Le côté avocat de Matt Murdock, c'est sympa si on aime bien les séries policières, les séries d'avocats, là, Ally McBeal, etc. Mais ça pose aussi des vraies questions de légitimité, puisque c'est un avocat qui est conscient que ce qu'il fait est illégal, et c'est un homme qui consacre sa vie au droit. Et on a souvent des débats entre lui et Foggy Nelson, donc son partenaire, qui lui dit « Ok, d'accord, tu fais le bien, mais ce que tu fais, c'est en dehors des clous, tu ne devrais pas avoir à faire ça. » Et justement, le Punisher, quand il arrive dans cette espèce d'équation, il apporte une radicalité. Donc le Punisher, pour ceux qui ne voient pas, c'est ce justicier qui, lui, n'est pas un super-héros, qui est...
C'est Frank Castle, voilà, un ancien armé, soldat, qui a vu sa famille se faire exécuter dans une rixe mafieuse et qui a eu une sorte de...
la guerre au crime.
Voilà, de déclic, qui s'est dit bah, « Attends, j'ai tué tous les criminels. »
C'est ça, voilà. Et en fait, lui est très heureux, entre guillemets, de ce statut. Oui. Il s'assume comme un assassin, ça ne le dérange pas plus que ça. Et curieusement, comme Daredevil, je le disais tout à l'heure, est toujours sur une sorte de ligne grise moralement, il va être assez proche de lui, et ce qui part au départ comme une sorte de rivalité, devient encore une fois comme une sorte de fraternité. Frank Castle, c'est Daredevil s'il avait assumé d'aller un peu plus loin, et de mettre cette justice expéditive au service de la mort. Et il y a même des très bonnes histoires où on voit en fait Frank Castle qui prend soin de lui comme d'un petit frère et qui lui dit, t'as juste pas compris, mais il faudra que tu tues à un moment donné. Et beaucoup de scénaristes vont aller jusqu'à mettre l'idée en avant. Mais quelque part, heureusement, voilà, Daredevil, ça reste un héros parce qu'il comprend que la mort, c'est le pas de trop. Quoi.
Alexandra ?
On l'a mentionné tout à l'heure, mais il est aussi catholique et tout le christianisme a une énorme empreinte. C'est notamment Miller qui a imposé ça et il est accompagné par la nonne Maggie qui, je pense aussi, est un rappel un peu à ce qu'il doit faire dans la vie de tous les jours.
Alors, il faut vous dire qui est Maggie.
C'est la nonne qui l'accompagne.
Voilà, c'est la nonne qui l'accompagne.
La nonne qui l'accompagne.
Voilà, si jamais vous lisez, voilà.
C'est la mère de Matt Murdock.
Ah bah voilà, super.
Nous, on voulait sur le service public.
Voilà, on voulait ménager le suspense. Ah bah non, vas-y.
J'ai spoilé.
Et là, je sais que je vais recevoir des mails de gens qui ne l'auraient pas lu, mais qui vont dire ouais, mais bah, je ne le lirai pas ce qu'il l'a dit. C'est.
Je voulais pas le dire, mais tant pis.
Arnaud, si jamais, parce qu'il y a eu pléthore de très très grands auteurs et dessinateurs qui se sont penchés sur la destinée de Daredevil, si jamais il y avait un arc à conseiller à un nouveau lecteur, parce que le but de cette émission, c'est que les gens lisent des comic books, je ne le dirai jamais assez, vraiment, faites une pause dans tous vos autres types de lecture, voilà, et lisez aussi des comic books.
Très compliqué parce que j'ai confondu deux artistes avant, donc je me fais plus confiance.
Non, mais je sais depuis tout à l'heure là-dessus. Je sens la pénitence.
Après, l'idée, c'est toujours d'avoir des points d'entrée, des choses qui sont assez accessibles. Celui auquel je penserai immédiatement, c'est Daredevil Yellow de Jeff Lubb et Tim Sale, qui, à l'instar de The Man Without Fear, est un peu un récit qui présente le personnage, alors de façon détournée, parce que c'est plus par une correspondance de Karen Page, en fait, donc une de ses anciennes petites amies, une de ses grands amours, en fait, qui va retracer, en fait, son histoire et qui profite d'un format assez compact, c'est une 120 pages et quelques, et alors c'est un dessin un petit peu atypique, mais justement qui a une vraie personnalité, qui est super agréable à regarder, et je pense que c'est vraiment un peu un récit qui permet juste d'avoir une lecture. de très bonne qualité qui pourra après donner envie de se lancer sur des récits de plus long terme, puisque après, si on veut être dans des périodes de très long terme, il y a plusieurs auteurs qui ont fait des runs magistraux, que ce soit Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Mark Waid notamment, pour ne citer cela, en plus de Frank Miller, qui sont des entreprises de plus long terme. Donc peut-être que pour commencer au départ, un petit Daredevil Yellow, ça peut faire l'affaire.
Très bien. Alexandra ?
Moi, j'ai commencé avec le run de Brian Michael Bendis et je pense qu'il est assez intéressant, surtout si, comme on mentionnait, on aime le polar. Il y a quelque chose d'assez intelligent sur la dualité où on voit vraiment toute la partie avocat et donc il y a tous les thèmes qui sont un peu repris de Miller et Brubaker, lui, suit bien ça, notamment. Alors, Ed Brubaker est un scénariste qui s'illustre beaucoup dans le polar avec de nombreux titres indépendants et qui apporte aussi une touche différente. Alors, on le disait en off, ça suit un peu l'histoire de Bendis, mais il apporte aussi quelque chose de plus dark qui est intéressant.
Et c'est aussi l'introduction officielle d'un autre personnage chéri de Brian Michael Bendis, sa création, Jessica Jones.
Exactement.
Qui est la détective que Matt Murdock mandate, ex-super-héroïne, désormais alcooolique et désabusée.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut lire les runs en parallèle. Moi, du coup, j'ai suivi aussi toute l'histoire de Jessica Jones en lisant en parallèle des récits de Brian Michael Bendis. Et donc, il y a vraiment des ponts qui se font et qui est très pertinent.
Bruce ?
Mais moi, bien sûr, c'est Born Again, hein, que je considère comme le plus grand comics de tous les temps, hein, avec David Mazzucchelli.
Je suis pas loin d'être d'accord.
C'est ce qui... Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose... Ça dépasse tout, quoi. C'est une œuvre littéraire, mais vraiment littéraire. J'aime beaucoup le run de Annie Nocenti, qui est également... la première femme qui a écrit Daredevil et qui lui fait vivre, qui recommence à déconstruire Matt Murdock, qui pèle son identité comme une oignon, comme un oignon par le biais d'une femme qui s'appelle Typhoid Marie. Oui. Et c'est de nouveau des histoires d'identité dissociative, avec un exil à la campagne, avec des thèmes très féminismes, très féministe, très écologique pour l'époque encore. Et Nocenti est souvent oublié dans les auteurs de prestige qui ont servi Daredevil. Mmh. Et dans les runs plus récents, j'aime beaucoup, j'en parlais en off, le run de Mark Waid qui pourrait mettre pour moi un point final à 30 ans de dépression de Matt Murdock. Et Arnaud en parlait tout à l'heure sur l'aspect juridique du personnage. Panini vient de rééditer Daredevil Redemption de David Hein et Michael Geddos, où il enquête sur une histoire vraie, c'est-à-dire un gamin sataniste et qui écoute du métal dans une banlieue pourrie des États-Unis et qui va être accusé de meurtre. Et il va choisir, enfin c'est Matt Murdock qui va le défendre et qui va réaliser que son costume ne va lui servir à rien, qu'il a besoin du droit pour faire sortir ce gamin de prison.
Corentin, on va écouter. On va écouter un CD on ménage la surprise. D'accord. On va écouter une chanson de Gabriel Auguste chantée par PR2B, Rêve.
tu ne rêves pas. Tu dis c'est sans espoir. Je ne te crois pas. Les gens qui ne rêvent pas ne sont pas si bizarres. Tu dis toujours ça.
Blockbuster.
Je suis pas mauvaise.
Frédéric Sigrist.
Je suis juste dessinée comme ça.
Sur France Inter.
Ricky, on l'a transporté dans des sacs jusqu'à la rivière.
One every night.
Un chaque soir.
For the next week.
Pendant une semaine.
Everyone in town knew.
Tout le monde savait qu'il devait de l'argent à Rigoletto, alors ils ont dû se dire.
He left town to avoid him.
Qu'il avait quitté la ville en catastrophe pour l'éviter.
My mother, she sent me to live.
Ma mère a décidé de m'envoyer chez des parents à la ferme dont je t'ai parlé, tu sais.
C'est pas ta faute. Tu as fait ça pour défendre ta mère.
I didn't do it for her.
Je ne l'ai pas fait pour elle.
I did it for me.
Je l'ai fait pour moi.
That's why I still wear this.
C'est pour ça que je porte toujours ces boutons de manchette, pour me rappeler que je ne suis pas cruel, par goût pour la cruauté.
That I'm not my father.
Je ne suis pas mon père.
That I'm not a monster.
Je ne suis pas un monstre.
Am I?
Je le suis.
No, Wilson. Non, Wilson. Ce n'est pas ce que tu es.
Vous venez d'entendre un extrait du 8e épisode de la première saison de Daredevil. Vincent D'Onofrio interprète Wilson Fisk, il est doublé en français par Thierry Ancis. Ayolette Zurer joue Vanessa Mariana et est doublée en français par Françoise Cadol. Corentin.
Oui.
Votre arc.
Ah, j'aime mieux ça.
Voilà. Votre bande dessinée à conseiller.
Oh, il y en aurait plusieurs. Celles qui ont été citées, évidemment, sont toutes de très bonnes lectures, sauf Mark Waid. J'aurais envie quand même de parler...
Agree to disagree.
Parce que pour moi, la fin canonique de Daredevil, ça a un nom. Ça s'appelle Daredevil End of Days de Brian Michael Bendis.
Oh mon Dieu.
Un volume qu'il a fait après son passage sur Daredevil, justement, et qui est une forme de conclusion dans laquelle, en fait, Daredevil meurt. Voilà, est enterré. Et Ben Urich, donc le journaliste, dans un hommage à Citizen Kane, en fait, va remonter la piste de qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'il en est arrivé là, en allant croiser toutes les personnes qui l'ont connu, qui ont partagé sa vie. C'est un magnifique hommage à tout ce qui a été fait sur Daredevil, à tous les personnages qui l'ont déjà croisé. Une écriture de polar vraiment extrêmement brute, extrêmement cinématographique. C'est super bien, je vous le conseille à tout le monde. Et aussi bah, les histoires de Elektra, évidemment, parce qu'on a parlé d'Elektra, mais c'est vraiment la contribution principale de Miller au mythos de Marvel, c'est aussi d'avoir créé Elektra, qui a eu des séries à elle, notamment Elektra Assassin, de Frank Miller et d'un certain Bill Sienkiewicz, qui est peut-être le plus grand artiste de sa génération, que même Moebius avait validé comme un virtuose.
Qui a aussi œuvré sur les Nouveaux Mutants.
Absolument, oui, qui a fait beaucoup de choses. Une très longue histoire qui revient à la fois sur l'origine d'Elektra et son présent contemporain, on va dire, à l'époque. Elektra Assassin aussi... Elektra Lives Again, je suis fatigué, de Frank Miller et Lynn Varley. Enfin, il y a plein de très bonnes histoires d'Elektra en général, et sinon, évidemment, moi j'aime beaucoup le travail de Chip Zdarsky. Je pense qu'il a surpris son monde
Avec Marco Cecchetto,
qui fait de très beaux designs de cheveux,
oui.
Qui a un peu surpris son monde en allant dans une direction qui paraissait très commune, très convenue, et qui en fait, en s'intéressant à l'amour d'Elektra et Matt Murdock, a réussi à résoudre une équation qui était restée bloquée pour moi pendant quand même bien 30 balais. Donc c'est pour moi un très bon volume que je conseillerais.
Très bien. Et je vous rejoins sur Chip Zdarsky, même si autour de cette table, il y a des accords, mais c'est
mais
bien.
Il faut
qu'on s'engueule, il n'y a pas de problème. J'aimerais qu'on aborde aussi la cécité. Parce que c'est Daredevil, c'est une des représentations les plus connues d'un handicap sur papier. Mais justement, il y a une manière, on en parlait un petit peu hors antenne, qu'ont les comic books de tricher avec la notion de handicap. Il y a notamment un autre personnage aussi qui s'appelle Echo, qui elle est...
Sourde.
Quid de la représentation des handicaps en comics?
Bah alors c'est un très vaste sujet pour une fermeture d'émission, mais il y a évidemment...
Non, on n'a peur de rien. 3 minutes.
Il y a un article sur Bruce Lee là-dessus.
Voilà, il y a un article sur Bruce Lee, mais sinon pour
être... Oui, et Bruce Lee qui écrit aussi pour Geek Magazine, il faut
rappeler. Exactement, Geek Magazine, attention. Daredevil, il est aveugle dans les faits, mais à part les couleurs, il voit tout. Et il voit même mieux que toi et moi, oui. Il voit autour de lui, il voit à 100 mètres, il sent, il perçoit tout. C'est un aveugle parce que, évidemment, il a eu cette affliction. Oui. Mais en
alors
vérité...
en fait, il a voulu sauver un aveugle qui traversait la route et qui a failli se faire renverser par un camion rempli de déchets toxiques. En le sauvant, son visage a été aspergé et donc il a perdu la vue, mais ça a augmenté ses sens. Le produit toxique est tombé dans les égouts et a créé les tortues ninja.
Exactement, c'est canonique. mais vraiment, c'est canonique, vérifiez chez vous. Et en fait, ça, voilà, le fait est que Daredevil, il peut même lire les caractères sur un livre en sortant les caractères d'imprimerie. Mais il n'a pas besoin de lire en braille, en fait. C'est pas du tout un aveugle au sens concret et réel du terme. Echo, c'est pareil, en fait, elle perçoit les vibrations dans l'air et comme elle a une mémoire photographique, elle peut tout reproduire. Elle a appris à jouer du piano à 5 ans en voyant une personne jouer du piano. Donc c'est un problème que les comics ont avec l'exagération, avec le maximalisme et le pouvoir qui permettent de tout contourner. De la même façon, on dit Spider-Man, il est précaire. Techniquement, il n'a jamais non plus à faire la queue devant la cantine du Crous. Il arrive quand même à s'en sortir. On va toujours trouver une parade, une astuce pour tordre le cou à ces problématiques qui sont un peu chiantes en fait, à présenter
ou
au public.
Ou anxiogènes.
Voilà, la société en général a du mal avec le handicap. Les super-héros, qui sont une version maximale de la nature humaine, vont avoir le même problème aussi.
C'est peut-être pour aussi dire que l'handicap est une force. Donc c'est aussi récupérer un problème, un mal-être pour que ce soit ton bouclier et ta force, quoi.
Arnaud ? Ce que je trouve juste aussi intéressant, c'est pas forcément juste par rapport au handicap, mais ce que ça permet de faire d'un point de vue artistique pour les artistes, en fait, de s'emparer de la façon dont on représente la non-vision ou la vision améliorée, on va dire, de Daredevil. Parce que chaque artiste, en fait, peut s'amuser à le faire différemment. Et notamment, quand on mentionnait Mark Waid avant, qui était avec Marcos Martin ou Paolo Rivera, en fait, il y avait une façon très, très artistique, très pop-arty de représenter, en fait, l'environnement tel que perçu par Daredevil. Et je pense que c'est un grand terrain de jeu pour les dessinateurs de ces bandes dessinées.
On parlait tout à l'heure de Batman, il y a un personnage très connu, Barbara Gordon, Batgirl, qui a passé de nombreuses années en fauteuil roulant, mais sur lequel ils sont revenus aussi, parce que bah voilà, il y a toujours un retour à la normalité, on a l'impression que le handicap c'est un passage.
Ce qui est assez fort dans Daredevil, c'est d'une part ce que disait Arnaud, la représentation du sens radar, c'est, je trouve, ce qui manque dans la série Netflix, le côté sensuel du personnage. Il entend mieux, il sent mieux que tout le monde, et il y a cette voix off où il dit tout ce qu'il ressent, et en sachant ce qu'il ressent, le personnage, le lecteur ressent aussi des choses. Ce qui est intéressant dans Daredevil, c'est que un ou deux épisodes avant Born Again, il rencontre une entité qui s'appelle le Beyonder, qui lui rend la vue.
Oui.
Et au bout de quelques pages...
Création de Jim Shooter.
Voilà. Et donc, au bout de quelques pages, il va voir sa copine, à l'époque, qui s'appelle Gloriana, en disant « Je suis venu te voir ». Ils vont tout en haut de l'Empire State Building. Et là, Matt Murdock réalise que, en fait, il veut redevenir aveugle. Il trouve que c'est de la triche, que ça vient compromettre sa mission. Et je trouve ça tout à fait sain qu'un personnage handicapé le reste. Dans la mythologie Marvel, on ne sort pas d'un handicap par un claquement de doigts ou une intervention divine. C'est ce qui fait, pour moi, la force du personnage, c'est qu'il est ancré dans ce qu'il est.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. D'autant qu'en plus, on parlait de sensualité, mais si vous voulez...
Accélérer, mettre accéléré.
Non,
si,
mais
elle
faut préciser que Matt Murdock est sûrement le personnage Marvel à la libido la plus active.
Tout à fait.
De très très loin. Très loin. Merci beaucoup Bruce, merci Alexandra, merci Arnaud, merci Olivier Corentin. J'aimerais remercier également Charles de Cilia qui réalise cette émission, une émission préparée par Benjamin Ducy et Lisiane Larbani. Et à la technique aujourd'hui, de nouveau, on le remercie, Mathias Alléon. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20, je répète 01 56 40 30 20, ou parler avec moi directement sur Instagram. Et demain, on se retrouve pour parler d'une série culte pour l'époque, Sex and the City.
Nous y voilà, Elektra. Alors tout est vrai, mes costumes rouges et les sabres, et maintenant, tu vas me liquider comme ça, à froid?
Ne t'en fais pas, il y a pire que la mort.
Ah oui? Qu'est-ce que t'en sais?
J'ai déjà été morte.
Et on va retrouver un monde nouveau. J'étais bien. J'étais avec Camille Diao. Bonjour Camille.
Bonsoir Frédéric, tout va bien?
Oui, très, très bien. De quoi on va parler aujourd'hui?
Eh bien, ce soir, un monde nouveau sous le signe de l'eau, puisque les glaciers, la moitié des glaciers de la planète vont fondre d'ici 2100. À quoi ressemblera un monde après la fonte des glaciers? On posera la question au glaciologue Jean-Baptiste Bosson avant de recevoir Nina Léger, autrice d'un des romans événements de cette rentrée littéraire, Mémoire sauvée de l'eau.
Oh Oh là là, ben on a parlé de Namor en début d'émission, le prince des mers. Là.
Les choses sont
tout
bien faites.
Tout est pensé, tout est cohérent. on va écouter
ça. C'est ça, France Inter.